Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique. Le 24 novembre, dans le cadre du Festisol, les associations ABCDE et CSI de Montrevel organisaient une conférence avec Mathieu Perdriau sur le thème de l'accaparement des terres. Retour sur cette manifestation avec l'interview de Mathieu Perdriau.
Bonsoir. Donc Mathieu, vous êtes dans une association qui s'appelle l'ACTER.
Oui. ACTER, qui est un acronyme qui veut dire Association pour contribuer à améliorer la gouvernance de la terre, de l'eau et des ressources naturelles.
Mais on imagine que vous devez être très nombreux pour faire une telle tâche.
Non, pas du tout, en fait. Et donc on appréhende ça de manière assez pragmatique, en fonction de bout par bout, en fonction de ce que nos membres permettent de traiter comme sujet, de réfléchir comme question dans ce domaine, dans ce vaste domaine. Et en réalité, donc, on est une structure avec 2 salariés et une centaine de membres, un peu plus. Qui sont répartis, c'est surtout des individus, hein, essentiellement des individus, qui sont répartis dans plus d'une trentaine de pays dans le monde. C'est en fait un réseau assez diversifié. À travers eux, on est en relation avec beaucoup plus de monde que ça, et beaucoup d'organisations notamment. C'est un réseau diversifié de personnes. Ça peut être des chercheurs, ça peut être dans tous les domaines, qui ont trait bien sûr à ces questions de ressources naturelles. Ça peut être des élus, les membres d'administration publique qui traitent de questions de développement et de ressources naturelles.
Donc vous faites un travail de lien et vous établissez des connexions entre toutes ces personnes dans la perspective donc de résoudre le problème de l'accaparement des terres.
C'est effectivement au cœur des préoccupations de ce réseau, de ces personnes. C'est le devenir du bien commun, finalement. Quels sont les usages aujourd'hui qu'on observe de ces ressources et quelles sont les solutions à trouver pour éviter les dégâts qui sont en réalité nombreux dans ce domaine, à la fois des dégâts humains, des dégâts socio-économiques. Derrière cette question des ressources naturelles et de l'accès aux ressources et de la distribution des droits sur les ressources, il y a la question de la couverture des besoins élémentaires des individus, il y a la question des dégâts sur l'environnement, du changement climatique, de la biodiversité. Donc on traite, nous, de cette problématique de l'accaparement qui s'observe aujourd'hui des terres et des ressources par quelques-uns, de moins en moins d'individus, et des usages problématiques qu'ils en font.
Alors vous dites de l'accaparement qui s'opère aujourd'hui, est-ce que c'est un phénomène nouveau, cet accaparement des terres ?
C'est un phénomène qui est revenu un peu sur le devant de la scène médiatique là à la fin des années 2000, parce qu'il s'est accéléré certainement à cette période, notamment du fait de la démobilisation d'une grande quantité de capitaux financiers, du fait de la crise financière des subprimes à l'époque. Et donc il y a beaucoup de détenteurs de capitaux qui se sont intéressés au secteur de la production primaire agricole, beaucoup plus tangible, beaucoup moins volatile.
C'est-à-dire que ça devient un marché comme les autres ?
Oui, ça a été un objet d'investissement financier, de business, hein, très, très clair. Donc, que ce soit sous la forme de prise de participation dans les industries agroalimentaires, la transformation, mais aussi, bien sûr, dans la production primaire, la production elle-même. Et pour ça, bien souvent, ça passe par l'obtention de droits sur la terre. Donc,
ce que vous voulez dire, c'est que donc les terres deviennent un capital. Est-ce que ça vide également les populations ? Comment ça s'opère ?
Oui, c'est ce qu'on constate beaucoup. Enfin, on n'est pas les seuls. Hein. Ça a été un problème qui a préoccupé et intéressé beaucoup de gens dans le monde. On constate que, en vérité, les terres qui sont visées par ces accapareurs, là, ces investisseurs, c'est ce mot-là, c'est plutôt le mot investisseur qu'il faudrait questionner, d'ailleurs. Elles ne sont pas exemptes de population. C'est très simple. En réalité, les terres fertiles ne sont pas infinies. Hein. C'est un élément limité à l'échelle mondiale et elles sont cultivées depuis longtemps partout où elles peuvent l'être. Donc quand on dit qu'elles sont sous-utilisées ou voire vacantes, libres, il faut regarder vraiment de beaucoup plus près.
C'est-à-dire qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul ?
Ça veut dire que très souvent, on compromet des accès aux ressources qui sont essentielles pour des populations, sous des formes ou d'autres. Hein. Ça peut être l'extraction de produits non ligneux dans une forêt, quand il s'agit d'un accaparement de forêt. Il peut s'agir de l'agriculture que l'on connaît lorsqu'il s'agit de prendre des terres agricoles, des espaces d'élevage, de pâturage, qui ont l'air inoccupés à un instant T, mais qui sont essentiels dans un cycle de transhumance, par exemple. Donc ce sont des projets qui ont compromis les conditions de vie et les moyens de subsistance de beaucoup de gens. Oui.
Donc il y a une destruction des équilibres naturels également.
Ah, il y a aussi des formes d'usage de cette ressource qui sont mises en œuvre par les nouveaux arrivants, qui sont très problématiques souvent. Dans le domaine, je ne sais pas, des plantations pérennes, des VA, de l'huile de palme, ça peut passer d'abord par une déforestation, une coupe, ou même d'élevage, hein, le front pionnier, ce qu'on appelle le front de progression des terres agricoles aux dépens de la forêt, c'est bien ce processus où on coupe le bois, on le vend au passage, et on met à la place des troupeaux, et puis une fois que tout est bien nettoyé, on passe après à l'agriculture. Mais donc on a là, en cas de déforestation, pour ce cas précis que j'évoque, une émission de gaz à effet de serre colossale, on rejette dans l'atmosphère le bois, le carbone contenu dans le bois. On a aussi, par ailleurs, dans les modes de production industrielle d'élevage ou d'agriculture, des usages souvent immodérés de pesticides, d'intrants de synthèse. Ça, c'est les aspects écologiques. Hein. Puis on a bien sûr une biodiversité qui disparaît, que ce soit une biodiversité cultivée lorsque, avant l'accaparement, on avait une agriculture paysanne variée, de nombreuses unités, avec des choix différents de cultures, d'espèces, des associations, ou quand il s'agit d'une forêt primaire ou d'un niveau de biodiversité colossaux, pour remplacer par des systèmes de production très, très simplifiés, avec quelques espèces. Une peut-être.
Donc, les productions très simplifiées, quelques espèces qui remplacent la biodiversité, également sans doute beaucoup moins de personnes qui sont concernées et qui travaillent. Donc, une éviction sans doute des populations et une suppression du travail.
Absolument, oui. Ça, c'est un des traits caractéristiques de cette financiarisation, cette arrivée de capitaux dans la production agricole. C'est que l'un des objectifs, l'objectif peut-être central de ces acteurs, c'est de maximiser le retour sur investissement. Et ça passe par minimiser l'emploi, notamment. Et donc, on remplace les individus par des machines. Et effectivement, quand on s'intéresse un peu aux performances socio-économiques de ces modèles par rapport à ceux qui étaient à l'œuvre précédemment, on se rend compte que l'agriculture paysanne est sans doute beaucoup plus efficace pour générer de la valeur ajoutée à l'hectare. Ça, c'est pas du tout évident dans le discours général. On prétend plutôt le contraire. Hein. On enrobe la modernité de cet atout-là. Et en réalité, c'est pas vrai.
C'est pas les tracteurs qui font la rentabilité.
Alors, les tracteurs font la rentabilité financière des détenteurs de capitaux. Hein. C'est ce qui permet de maximiser la part de la valeur ajoutée qui repart aux actionnaires. Hein, et qui fait qu'on évite d'avoir trop de monde, trop d'individus à payer en salaire. Mais ce n'est pas ce qui fait la performance économique, c'est-à-dire ce n'est pas ce qui fait le fait qu'on maximise la valeur ajoutée à l'hectare, la valeur ajoutée nette, qui elle est un autre calcul. La rentabilité financière passe par les tracteurs, l'efficacité économique, elle passe par des systèmes beaucoup plus intenses en travail. Et donc elle permet d'avoir à la fois plus de richesse à l'hectare, et en plus, cette agriculture paysanne, elle permet de rémunérer davantage d'individus, puisqu'elle demande plus d'actifs à l'hectare.
Et alors, ces individus qui sont privés de leur travail agricole, que font-ils ?
C'est la grande question. Pour certains d'entre eux, ils se trouvent employés éventuellement dans les unités qui sont mises à leur place. Lorsqu'il y a quelques salariés recrutés, donc ils le sont éventuellement à la journée ou alors à l'année dans des systèmes intégrés, mais sans être plus maîtres du tout de leur choix de production. Ou alors ils ont à trouver une alternative ailleurs. Ça peut passer par du défrichement supplémentaire de forêt pour implanter une unité ailleurs, éventuellement. Donc on a un déplacement des phénomènes de destruction de la forêt. Mais ça peut être aussi partir vers la ville, tenter de trouver une activité rémunératrice là-bas. Et donc ça vient grossir le flot de l'exode rural qui n'a jamais cessé, hein, qui ne s'est jamais tari. Ce phénomène-là de prise de terre, il se surajoute à un phénomène qui est bien connu aussi des analystes de ces évolutions agraires, qui est celui de la concurrence internationale sur les marchés des produits agricoles. Avant de prendre les terres, les unités à grande échelle capitalistes, à distance déjà, contribuaient à l'éviction, à la paupérisation des paysans ailleurs. Du simple fait qu'on a ouvert les marchés de produits agricoles, on a démantelé les systèmes de droits de douane qui permettaient de protéger un peu les marchés des pays où les producteurs agricoles sont moins armés, ont moins de machines, ont moins, etc. Et donc, du coup, en arasant ces outils de rehaussement un peu artificiel des prix producteurs, on les a soumis, on les a exposés à la concurrence directe, ce qui les a appauvris directement, quoi.
Et alors, dans les échanges entre les pays et les entreprises, c'est un échange qui est très inégal. On a l'impression que donc ces pays sont très démunis pour aller contre cette attaque, si on peut parler d'attaque, des sociétés qui viennent s'emparer des terres.
Alors démunis,
le sont-ils ?
Tout dépend de quel point de vue on se place, au sens où c'est tout à fait souverainement qu'ils ouvrent la porte en tant qu'État souverain, en tout cas ceux qui détiennent le pouvoir, ils ouvrent la porte aux investisseurs. Et on peut penser que souvent ces gouvernants sont de bonne foi quand ils pensent à l'avantage, à la modernité, à la modernisation, l'avantage que pourraient amener ces capitaux dans le secteur agricole.
Ça marche beaucoup, comme une sorte d'appât.
Il y a une grande part de méconnaissance en réalité aussi de ce que pourrait être une autre évolution de leur économie, de leur société, si ils misaient sur l'agriculture paysanne. Et donc il y a une croyance, il y a une forme de croyance dans ces discours qui enrobe l'agriculture à grande échelle, capitaliste à salarié, de tous ces atours de modernité, quoi. En réalité, elle détruit l'emploi. Et voilà. Et donc, peut-être que s'ils le savaient vraiment, ils n'agiraient pas complètement comme ça.
Et est-ce que les titres de propriété sont les mêmes que dans nos pays, dans ces pays-là ?
Alors, non, oui, le rapport au foncier est différent. Mais je vais quand même compléter ma réponse à la question précédente, là, sur est-ce qu'ils sont démunis. Il y a cet aspect idéologique, de croyance probablement partagée. Mais il y a évidemment aussi d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et qui forcent la main aussi, hein, à ouvrir la porte aux investisseurs étrangers. C'est des logiques de dépendance financière à des institutions comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international pour ces pays qui souvent sont très endettés, très dépendants de prêts extérieurs pour arriver à faire tourner à minima leurs États, leurs administrations, et qui du coup se plient à des incitations, des prescriptions en matière de bonne gouvernance, hein, et donc qui appliquent les réformes politiques qui consistent à ouvrir, à faciliter l'entrée de ces capitaux extérieurs. Donc ils sont aussi un peu coincés. Hein,
Alors est-ce que ça se passe sans réaction ? Est-ce qu'il n'y a pas des luttes ? Est-ce qu'il n'y a pas des comités de citoyens dans ces pays-là ?
Si, fort heureusement, les paysannes, les paysans, les éleveurs, excepté dans les cas où c'est vraiment extrêmement verrouillé ou alors ils n'ont pas cru légitime de pouvoir s'opposer et s'ériger, ce qui arrive aussi hein, souvent, hein, parce qu'il y a une croyance, une intériorisation de l'infériorité de leur mode de production par rapport à cette pseudo-modernité. Hein, ça, c'est un facteur important. Mais heureusement, beaucoup, beaucoup sont lucides et conscients de la valeur de leurs usages, de leurs pratiques, et font front, se manifestent, occupent les terrains, essaient d'aller chercher les pouvoirs publics et de leur montrer ce qu'ils ils vivent pour obtenir, de faire cesser tel ou tel cas d'accaparement et arrivent à gagner gain de cause dans de nombreux cas. On peut penser à des mouvements en Afrique de l'Ouest, par exemple. Enfin, dans le monde entier, on en trouve, mais j'y pense actuellement parce qu'il y a un mouvement qui s'appelle la Convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes en Afrique de l'Ouest qui a démarré sa troisième caravane il y a quelques jours. Et dont l'objet est de faire beaucoup, beaucoup de bruit sur ces questions d'accaparement de terre et de revendiquer une protection effective des droits des paysannes et des paysans et des éleveurs sur leurs terres. Et ça, à travers plusieurs pays à chaque fois, donc ils parviennent à mobiliser et à faire revendiquer avec eux de nombreuses personnes qui, du coup, poussent les gouvernements à tendre l'oreille et à changer un peu de posture.
Et c'est un signe qui peut rendre optimiste.
Moi, je crois, oui, beaucoup. C'est des approches qui sont exemplaires de par l'invention politique qu'elles portent. Elles élaborent leurs propres évolutions politiques en réponse à tout ça, dans le respect de tout un pan de leur culture et de leur tradition. Voilà. Et elles gagnent cause dans pas mal de cas. Il y a des réformes aussi, des réformes d'ordre politique national. C'est pas seulement avoir gain de cause face à un accapareur et éviter que 20 000 hectares soient pris ici par une entreprise. C'est aussi parvenir à faire bouger les cadres politiques et ils y arrivent. Alors c'est des petits pas souvent, c'est jamais complètement gagné, il faut qu'elles soient appliquées derrière ces réformes, mais ça bouge.
Et est-ce que dans nos pays occidentaux, il y a la même prise de conscience ?
Il semblerait que oui, il semblerait quand même qu'on commence à s'interroger un peu sur l'évolution de notre agriculture en France, en Europe. Ça touche de plus en plus de monde, il y a des phénomènes ou des associatifs qui le démontrent, hein, le phénomène des AMAP, de chercher à relocaliser les approvisionnements, d'essayer de défendre du coup des unités plus petites qui rémunèrent plus de monde, ça on le constate bien. Terre de Liens aussi est un exemple hein, de cette envie de que les terres ne soient pas cultivées n'importe comment par n'importe qui.
Alors est-ce que vous trouvez que finalement toutes ces problématiques, même en Occident, par rapport à l'Afrique ou des pays qui sont beaucoup plus moins favorisés que les nôtres, elles se rejoignent ?
Ah, c'est le même phénomène partout, oui. Oui, cette financiarisation, si on peut la résumer, le résumer comme ça, hein, cette financiarisation de l'agriculture, il est à l'œuvre en Europe de l'Ouest, bien sûr de longue date aux États-Unis, mais c'est finalement l'entrée dans le capital des unités de production familiale et bien de détenteurs de capitaux qui ne sont pas sur place, qui ne sont pas les travailleurs, qui ne sont pas les gens qui vivent de l'outil de production. Et c'est un levier majeur aujourd'hui de concentration foncière indirecte, on va dire, puisqu'on peut avoir l'impression d'avoir devant soi 4 ou 5 fermes. Elles sont en réalité détenues à 80% toutes par un même fonds de pension, une même banque d'investissement. Ça existe sous cette forme-là. Ça existe aussi sous une autre forme, cette financiarisation. C'est tout simplement que des producteurs agricoles ne produisent plus eux-mêmes, n'effectuent plus eux-mêmes le travail sur leur ferme, mais le font réaliser, ou pour l'essentiel du travail, le font réaliser par une entreprise privée. Et on a des boîtes de travail à façon, qui peuvent assumer les travaux sur 3000, 4000 hectares dans une région. Et donc là, c'est aussi une forme, finalement, de concentration foncière, parce qu'on a un seul opérateur qui fait les choix, principalement, sur ces surfaces.
Donc face à ce monde où tout se ressemble, finalement, il peut y avoir une convergence des luttes.
Oui, sans doute que si la mesure était prise de ce fait, de ce trait commun, on pourrait peut-être envisager de voir des mouvements de résistance locaux à tel ou tel accapareur, face à telle ou telle loi nationale problématique, se rapprocher pour proposer des régulations, des leviers à une échelle encore supérieure, peut-être supranationale, pour parvenir à contrecarrer ces mouvements de capitaux et offrir des recours. C'est aussi ça qui est important en cas de privation de l'accès à des ressources, de privation de droits, spoliation de droits fonciers, avoir des recours qui n'existent pas dans le cadre de sa propre
Allez-y.
Son propre pays, trouver des recours juridiques qui permettraient de rétablir dans leurs droits contre la volonté des investisseurs et des États.
Est-ce que vous avez une piste en particulier ?
Je pense à une initiative qui est en cours à l'heure actuelle au Conseil des droits de l'homme à Genève, qui concerne l'instrument contraignant à l'endroit des multinationales dans le domaine du respect des droits humains fondamentaux. Des États disent vouloir réfléchir à cette possibilité de créer une instance judiciaire de recours, qui soit obligatoire, qui ne soit pas une fausse justice, qui ne soit pas une justice facultative, et qui pourrait tourner, s'il y avait une pression citoyenne suffisante, vers la constitution d'un instrument, d'une cour mondiale qui aurait cette compétence, qui pourrait sanctionner les entreprises et même des États en cas de violation ou de non-respect de ces droits fondamentaux d'accès aux terres, aux ressources, et même de droit à l'alimentation.
Eh bien, on espère que toutes ces luttes vont finir par aboutir. En tout cas, je vois que vous y œuvrez. Et je vous dis à bientôt. Et merci.